Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Karine Joachim-Pasquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, autrice. On s'était rencontrés il y a quelques années pour votre premier roman, Oublié Gabriel. On en reparlera, on le réévoquera peut-être un peu. Vous m'avez donné rendez-vous au-dessus de Montreux. On est dans une série de journées de stratus bas pour les grouillots de la plaine. Nous, on a réussi à grimper au-dessus.
Oui, là on est dans le village des Avants et on a devant nous une magnifique mer de brouillard et puis la dent de Jamant sur le côté, c'est magnifique.
Voilà, vous voyez la dent de Jamant, moi je vois les dents du Midi, arrogante et orgueilleuse également depuis ce village des Avants au-dessus de Montreux. Bah, pourquoi ici ?
J'ai grandi en fait aux Avants, donc tous mes souvenirs d'enfance y sont et puis j'ai quitté les Avants quand j'avais une vingtaine d'années, donc c'est pour moi... l'endroit de tous les départs.
De tous les départs, le départ dans la vie. Je me souviens d'Oublier Gabriel, votre premier roman, se passait sur la Riviera, avec l'évocation justement à la fois des deux villes, ou du moins petite ville, Vevey-Montreux, et puis tous les villages. Vous avez sillonné les routes en boguet, comme on disait à l'époque.
Alors j'avais un scooter, je n'ai pas eu le droit d'avoir un boguet, mais quand j'ai eu mon scooter, j'ai sillonné... les routes de nuit comme de jour.
Bon, c'était peut-être mieux, parce que je me disais en montant en boguet, ça devrait prendre 4 heures. les vélomoteurs un petit peu poussifs qu'on avait à la fin du siècle dernier. Vous écrivez, on va parler aujourd'hui d'un livre collection jeune public, Le Sabre du Samouraï. C'est pas votre premier roman jeunesse, je crois, il y en a eu d'autres. C'est paru aux éditions Oscar Éditeur, maison d'édition que je ne connaissais pas, assez spécialisée. Jeunesse, c'est ça?
Oui, c'est vraiment une maison d'édition pour la jeunesse qui est basée entre Paris et Bruxelles et puis qui publie en fait toutes sortes de romans avec notamment un petit axe pédagogique. Il y a toujours des petits dossiers pédagogiques à la fin des ouvrages, donc ils font beaucoup de choses pour la jeunesse, majoritairement des romans.
Qu'est-ce qui vous... On y reviendra évidemment à ce livre dans la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qui vous fait écrire?
Alors moi j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite, j'invente des histoires. Je ne sais pas véritablement d'où ça vient, mais j'ai retrouvé en fait dans le grenier de chez mes parents des manuscrits de qualités diverses avec toutes sortes d'histoires. Donc ça a vraiment toujours.
Vous étiez une fille, donc vous aviez une belle écriture, donc au moins c'est lisible.
Exactement. Et puis après, j'écrivais, j'inventais des chansons. J'avais même inventé un journal qui se passait aux Avants et qui racontait les petites nouvelles du coin. Donc voilà, et que l'écriture, c'est ma passion. Oh,
mais ça veut dire il y a un moment où il faut un déclic, de se dire beaucoup de gens écrivent, le journal c'est quelque chose qui accompagne des tas de gens, et puis un jour on se dit je vais aller frapper à la porte de maison d'édition, c'est une autre aventure.
Oui, en fait j'ai toujours écrit donc pour moi dans mon coin. Et puis un jour au travail, il y a une de mes collègues qui s'appelle Myriam Connet qui a écrit un livre. Elle l'a écrit en 4 mois et ensuite elle a trouvé un éditeur. Elle a vraiment été pour moi une source d'inspiration.
Vous l'avez haï pour ça?
Alors, j'ai plutôt admiré parce qu'on est très amis. Et puis, en fait, on a commencé à discuter de l'écriture ensemble, à écrire ensemble. Et ça a été pour moi mon tremplin, en fait. Elle m'a vraiment inspirée.
Une sorte de moment de révélation, mais ça veut dire qu'il y a un moment où, plus personnellement, plus solitairement, vous mettez à l'écriture d'un livre. Et puis après, il y a cette démarche d'aller frapper à la porte des éditeurs. Comment ça s'est passé pour vous?
Alors ensuite, avec Myriam, nous nous sommes inscrites à une formation qui s'appelait Désir d'écrire, qui était une formation en ligne qui durait environ 3 ans avec des exercices d'écriture, du coaching, etc. Et puis c'est cette formation qui m'a permis d'aller au bout de mon manuscrit. Et cette formation expliquait vraiment comment trouver...
Ça veut dire qu'il y en a des bonnes de ces formations, parce que ça sent un peu l'arnaque souvent, quand on voit passer des pubs. Je la connais pas celle-là, donc je pose pas de jugement. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup passer de publicités, apprenez à mettre votre roman en place, à avoir des... puis comme souvent, quand il y a du coaching, y a à boire et à manger, quoi.
Ah ben c'est clair, moi j'en ai pas fait d'autres, donc je peux pas juger, mais celle-là, elle avait l'avantage de nous mettre des deadlines et de nous pousser en fait. Pour pouvoir terminer la formation, on devait terminer un manuscrit. Ce manuscrit a été Oublié Gabriel Et en fait, cette formation m'a vraiment disciplinée parce que c'est terriblement long de faire un manuscrit qui fait plusieurs centaines de pages, de relire, relire encore. Cette formation, elle était pour moi un catalyseur qui m'a permis ensuite de trouver un éditeur parce qu'il nous explique aussi comment ça se passe. Donc, ils m'ont donné en fait des outils très, très, très concrets pour ensuite se lancer dans ce monde-là, parce que ce n'est pas évident quand on ne sait pas comment faire.
Je vous avais reçu en 2022, hein, pour oublier Gabriel. Je me souviens d'une lecture très agréable pour ce qui me concerne, un exercice réussi. Quel a été son parcours ensuite ?
Alors, il a eu un très bon accueil. J'ai eu la chance de recevoir le prix Mousse Boulanger 2023 pour ce roman-là. Donc, j'ai été très, très surprise et très heureuse en fait, de cet honneur-là. Et puis il vit son chemin, il continue à trouver ses lecteurs.
Bon, il y avait une part un peu autobiographique, il y avait déjà cette Riviera qui est votre terre. Il y avait quelque chose de vous dans ce livre-là ?
Alors la trame, l'histoire en elle-même, elle n'est pas autobiographique, mais par contre tout ce qui l'enrobe, oui, parce qu'en fait elle se passe dans la région. Ça commençait en Italie à Milan où j'ai passé quelques temps, et puis ensuite on suivait la protagoniste qui revenait dans sa région natale, qui était Montreux et Vevey, et puis là en fait tout l'environnement, tout ce qui englobe l'univers de la protagoniste, ses années adolescentes, là, je me suis clairement inspirée de faits réels. Mmh. Mais après, l'histoire en elle-même, ouais, non.
Bien sûr. Il y a une part de Madame Bovary dans tous les livres.
Hein, exactement.
Évidemment. Bon. Mais alors, vous l'avez écrit. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque. Vous habitiez à l'autre bout du monde, hein, à Hong Kong.
Oui.
Et puis, vous parliez de votre terroir depuis l'autre bout du monde.
J'ai l'impression que c'est parfois plus simple d'écrire sur les endroits qu'on connaît quand on est loin de ces endroits, parce qu'en fait, les sensations, les souvenirs qu'on a de ces endroits, ils reviennent de manière beaucoup plus forte. Donc, il y avait typiquement des souvenirs très forts d'odeurs, de bruits, de sensations que je ne voyais plus quand j'étais simplement dans l'endroit en lui-même, parce que c'était tellement le quotidien qu'on ne regarde plus du tout ce qui se passe autour.
Ouais, c'est intéressant cette histoire, cette affaire d'éloignement, hein, pour se retrouver. Je parle souvent de ça avec des gens qui se sont expatriés, on est là dans un merveilleux paysage qui peut-être pour les personnes qui habitent la maison qu'on voit juste devant nous est devenu banal. Hein, et le matin, il le voit peut-être plus, ce paysage extraordinaire. Quand on s'est expatrié, quand on est parti, on revient, puis on découvre à nouveau son pays. Ça vous est arrivé ?
Oui, alors moi, je suis de retour après 6 ans à Hong Kong et maintenant, j'habite à Neuchâtel. Donc, je redécouvre la Suisse et je redécouvre aussi une région de la Suisse que je connaissais très peu. Donc, je suis assez frappée par la beauté des paysages, par la tranquillité, le calme, le rythme en fait, de travail qui est beaucoup moins intense, en tout cas, qu'à Hong Kong. Et puis, la chose qui m'a le plus frappée et que j'adore, c'est que les gens sont trop sympas en Suisse.
Ils sont pas sympas, les Hongkongais.
C'est différent,
Les, pas les mêmes sympas.
Ouais, ils sont gentils, mais il y a aussi une grosse barrière de la langue. Il y a le fait que c'est aussi un endroit qui a été colonisé par les Anglais. Donc, quand on arrive et qu'on parle anglais, ils sont un peu fermés, ce qui est normal. Et puis, après, moi, j'ai appris le chinois, donc là, ça allait mieux, mais ils ont la communication, quand on parle dans une autre langue, elle va plus à l'essentiel. On ne peut pas commencer à se raconter nos vies, tandis que en Suisse, les gens sont très sympas, ils parlent, ils n'hésitent pas à raconter des petites choses.
C'est marrant, parce que c'est sûrement pas la réputation qu'ils ont, si on regarde à l'échelon européen, hein, c'est peut-être probablement pas la réputation d'être les plus ouverts d'Europe, mais tant mieux d'avoir cette image-là. Le monde nous est ouvert, hein, à nous autres occidentaux, on peut aller où on veut, ça durera peut-être pas d'ailleurs, on verra ce que le monde nous réserve. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller à Hong Kong ?
Alors, moi, j'ai toujours rêvé, depuis mes avants ici, je lisais les romans de Pearl Buck avec beaucoup de beaucoup d'assiduité. Et j'ai toujours, toujours rêvé de vivre à l'étranger. L'étranger me faisait rêver. Et puis, il y a 6 ans, c'est mon mari qui a eu une opportunité de partir pour son travail à Hong Kong. Alors, on était vraiment très heureux et puis on a sauté sur cette occasion. Donc ça a été vraiment le déclencheur.
Bon, Moi, j'avais un fantasme, oublié Gabriel. Hein. On avait l'héroïne qui partait pour tracer quelque chose de son passé. C'est pas votre cas, du coup.
Non, je suis plutôt partie joyeusement, pas parce que j'avais un lourd secret derrière moi.
Tant mieux. L'écriture vous accompagne depuis. Je disais que ce livre dont on va parler, Le sabre du samouraï, déjà, il y a une inspiration clairement asiatique, hein, même extrême orientale. Je crois que c'est le cas aussi des autres livres jeunesse que vous avez écrits. Vous avez découvert ce monde-là, où il y avait un attachement premier à cet Extrême-Orient?
Alors, mes quatre romans jeunesse parus chez Oscar se passent tous au Japon. Et puis, de manière assez étrange, le Japon, pour moi, est relié aux Avants, parce que c'est là où j'ai rencontré ma sœur qui... mes parents étaient famille d'accueil, donc on accueillait des enfants qui ne pouvaient pas rester chez leurs parents pour diverses raisons. Et puis, un jour, ma sœur est arrivée dans notre famille. Et ma sœur est suisse et japonaise. Et puis à partir de ce moment-là, il y a mes parents qui ont réussi à retrouver le contact de la famille au Japon, de ma sœur. Donc elle avait son père au Japon, elle avait deux sœurs. Et puis dès ce moment-là, toutes les vacances, on avait la famille japonaise qui venait en vacances chez nous aux Avants. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le Japon. Ensuite, ma sœur est retournée vivre au Japon, retrouver ses racines. Et puis, elle est aussi passionnée d'arts martiaux. Donc là, elle travaille dans un dojo, elle enseigne l'aïkido. Et donc, j'ai pu aller la voir à de multiples reprises, et notamment quand j'étais à Hong Kong. Et donc, tous les romans que j'ai écrits sur le Japon, je les ai écrits en partie à partir du Japon.
Bon, on sent en tout cas qu'il y a, il y a un vrai intérêt de votre part, hein. Je ne vais pas dire passion, mais enfin si, quand même, il y a quelque chose d'assez passionné chez vous, de la culture japonaise, de l'histoire du Japon. On en est plein dans ce livre, Le sabre du samouraï, dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission qui arrive tout de suite.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Karine, Joachim Pasquier, on se retrouve pour parler de ce livre, Le sabre du samouraï, donc livre jeunesse. J'ai lu l'argument de l'éditeur, hein, de 10 à 110 ans, c'est ça?
Exactement, parce qu'on a tous un enfant en soi, donc oui. Les livres jeunesse
et
sont.
Et parfois l'enfant revient dans les grands âges, hein. c'est ce qu'on appelle le retour en enfance. Alors, vous n'avez pas une carrière d'écrivain de 20 ans derrière vous, mais quand même, la différence entre l'écriture, je me souviens d'Oublier Gabriel, c'était un roman qui était très lisible, qui n'était pas compliqué, mais enfin qui avait des retours, des flashbacks, des artifices, hein, de création assez élaborés. Et puis, l'écriture jeunesse, évidemment, on doit aller à l'épure, à la simplicité, à la phrase immédiate. C'est un effort, ça vient plus facilement, comment ça marche?
Alors, bon, Oublier Gabriel, c'était mon premier roman adulte, donc j'avoue que j'ai encore un petit peu du mal, je suis en train de travailler sur un deuxième roman, mais j'ai encore un peu du mal à pouvoir généraliser là-dessus. mais les romans jeunesse, effectivement, c'est souvent plus rapide et plus fun à écrire, parce qu'on peut aller de manière plus spontanée à diverses choses, on peut utiliser des artefacts. Après, la construction des romans en soi... Elle nécessite quand même du travail. Pour Le sabre du samouraï, j'ai fait énormément de recherches historiques parce que je me plonge dans le Japon du XIIe siècle. Et malgré le fait que je connaisse très bien le Japon du XIIe siècle, je n'ai pas pu y aller personnellement. Donc, il a fallu que je lise énormément de livres, que je me renseigne. Et donc, ça a été un gros, gros travail pour ce manuscrit. C'était la partie très différente par rapport aux autres.
Ouais, on va parler de l'aspect documentaire, hein, mais je reviens à l'écriture. Quand on écrit, on a la tentation de la belle phrase, du mot. Est-ce que des fois, on doit se freiner, justement, à dire non, ça, c'est trop compliqué. Ça ne va pas pour celles et ceux que j'estime être mes lecteurs.
Alors moi, j'essaye de pas trop simplifier parce que les enfants sont malins et comprennent souvent ce qu'on leur dit. Mais effectivement, j'essaye de rythmer davantage le récit parce qu'ils ont aussi, ils lisent beaucoup plus que nous. Ils ont tendance à lire énormément. Ils sont dans cette culture
des
mangas.
C'est marrant ce que vous nous dites là parce que c'est pas l'image qu'on en a. Hein.
Alors de mon expérience, ouais. En tout cas, j'ai longtemps travaillé en bibliothèque scolaire et les enfants dévoraient les livres. Alors après, effectivement, il y a plein de parents qui disent « Ah, mais c'est pas des livres, ils lisent des mangas,
lisent plus,
des BD.
Ouais. »
Mais pour moi, en fait, ils lisent énormément. Et puis quand on part du principe qu'ils passent leur journée à lire des manuels scolaires, peu importe le support... Ils lisent beaucoup.
Ouais, moi, je suis content hein, d'entendre une théorie contre-intuitive sur la jeunesse qui lit. Voilà, moi, j'ai dû me plonger un peu dans mes souvenirs d'enfant. Hein. On avait ce qu'on appelait la bibliothèque verte, la bibliothèque rose quand j'étais gamin. Alors, j'en ai pas des souvenirs extrêmement précis, mais j'imagine que la démarche était un petit peu la même. Il n'y avait pas tout l'aspect documentaire, hein, pédagogique dont on parlera, mais il y avait des intrigues plutôt simples, un suivi d'intrigues plutôt simples. Et puis, ça faisait le job de mettre les gens dans la lecture, hein, de mettre les enfants dans le réflexe de lire. C'est votre but ?
Oui, comme moi j'ai toujours lu, c'est aussi c'est quelque chose que j'adore. J'avais envie en fait de transmettre aussi cette passion de la lecture. Et puis si ça peut se faire par des livres, c'est l'idéal. En fait, j'ai commencé à écrire pour mon filleul qui était, moi j'étais en Asie, lui il était, eux ils étaient à Nyon et à Morges. Et puis je leur envoyais un chapitre par mois. Et donc, ils recevaient ces chapitres, c'était eux les héros des livres, et c'est eux qui voulaient la suite. Et puis, effectivement.
Donc, votre filleule, voilà. Et c'est sa fratrie, c'est ça.
En fait, j'ai deux filleules, une à Morges, une à Nyon, et puis d'accord. Je leur envoyais à ces voilà. Filleules-là.
Et ils avaient leurs aventures à eux.
Personnalisées.
C'est pas mal, ça. Ça. On peut dire que c'est cette expérience familiale, finalement, qui vous a mis dans le réflexe d'écrire ?
Oui, à la base, je n'avais pas du tout pensé écrire pour la jeunesse. Donc, j'avais écrit Oublie Gabriel. J'étais assez focus sur la littérature adulte. Et puis, c'est justement Elijah, mon filleul de Nyon, qui, lui, adorait Naruto, bien sûr. Et il m'a demandé si je pouvais lui écrire une histoire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, donc, après, j'ai commencé à écrire cette histoire. J'envoyais à ma petite filleule Zoé, à mon filleul Elijah, par la poste. Puis, c'est aussi un moyen de garder le contact.
Voilà, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, qui, a priori, sont plus âgés que votre filleule. Naruto, personnage de manga, planétairement célèbre.
Exactement, avec un nombre de tomes extraordinaire. Ouais, lui, il adore ça.
Voilà, je ne vais pas m'aventurer trop dans ce monde que je ne connais pas bien. Vous avez relevé l'aspect pédagogique hein, de ces livres. Alors, j'imagine que ça fait partie du deal avec la maison d'édition. Je crois même que vous l'avez dit dans la première partie. Cette maison d'édition franco-belge, donc Oscar éditeur, édition spécialisée jeunesse. Et ça fait partie du contrat, finalement, de mettre en contexte l'histoire.
Alors, ça dépend pour lesquels. Pour ma série Le Monde des Dragons, non. Après, je l'ai fait un peu volontairement. Pour Le Sable du Samouraï, c'était une commande. Ils ont lancé une collection de romans historiques pour les enfants. Et ils nous ont attribué des périodes historiques. Donc, ils m'ont demandé si j'étais d'accord d'écrire sur les samouraïs. Alors, les samouraïs, c'est une période très, très large. Ça couvre plus de 900 ans d'histoire. Mais j'avais le feu vert pour le sujet. Puis c'est là où, en fait, j'étais à Hong Kong. À Hong Kong, on vit des typhons de manière assez régulière. Et là, je me suis dit, je vais parler du plus célèbre typhon japonais, le typhon Kamikaze.
Kamikaze, hein, je pense que c'est Kamikaze.
Kamikaze.
Kaze. Kamikaze, ouais. Avec la prononciation japonaise. Alors, ça a donné évidemment un nom commun. Hein. Ces commandos suicides pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes d'avions qui allaient faire écraser leur avion et donc qui se suicidaient sur les bateaux américains ou alliés. Et en fait, on ne s'en souvient pas forcément ou on ne le sait pas. Ce mot kamikaze, ça veut dire le vent divin, c'est ça ?
Exactement.
Alors, racontez-nous pourquoi, parce que c'est le contexte de votre roman.
Alors, les kami, ce sont les dieux en japonais, et kazu, ça veut dire le vent. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XIIe siècle, donc toute l'Asie, mais aussi une partie de l'Europe, était sous domination des Mongols, qui étaient très très puissants. On a tous entendu parler de Genghis Khan. Et puis, au XIIe siècle, pendant la période de mon roman, c'est son petit-fils Kubilai Khan qui est en train d'agrandir encore le territoire. Et il a décidé de s'annexer le Japon. On ne sait pas exactement pourquoi, il y a plusieurs théories à ce sujet. Et puis, les Mongols ont essayé d'annexer le Japon par deux fois. Donc, la première fois en 1274, ils ont échoué. Et ils sont revenus à l'assaut en 1281. Et c'est ce deuxième assaut que je couvre dans mon roman.
Avec un coup de pouce des dieux, justement, hein, puisqu'ils vont échouer à envahir le Japon. Alors, on a, nous, une lecture très européenne hein, des invasions mongoles, déferlante sur toute l'Europe de l'Est et même jusqu'aux portes de notre Europe occidentale à nous, hein, au XIIe siècle. C'était le deuxième fléau de Dieu, c'était Attila numéro 2. On oublie souvent qu'ils sont aussi allés de l'autre côté. Hein. Ils ont d'abord conquis la Chine et puis ils ont essayé le Japon. Ça donne un moment créateur pour l'histoire des Japonaises et des Japonais aujourd'hui. Que ce moment finalement d'empêchement, de résistance.
Oui, en plus les Japonais, ils ont toute cette religion qui est basée sur les éléments, sur les dieux, sur la déesse du soleil, etc. Donc le fait qu'un typhon vienne en aide, je pense que ça a dû être très très symbolique et on le retrouve dans nombreuses gravures, dans nombreuses autres œuvres. Et effectivement, je pense que si on avait eu quelque chose comme ça en Suisse, ça nous aurait façonné aussi.
Bon, on a des moments, on a Guillaume Tell, on a des moments légendaires comme ça qui façonnent l'histoire d'un pays. Et c'est sans doute un de ces moments, alors pas légendaires pour le coup, historiques, hein, qui façonnent l'histoire du Japon. Bon, vous avez un jeune héros. C'est marrant parce que j'ai trouvé que le héros cédait la place petit à petit à l'héroïne. Il y a un jeune samouraï qui va rencontrer une jeune fille qui prend une importance féministe, hein, dans votre récit.
Oui, alors donc mon jeune héros qui s'appelle Ryosuke, c'est un jeune garçon qui est tout jeune samouraï, il vient d'être nommé, il est samouraï de père en fils, son père est mort au combat en 1274 et il est formé par un ami de son père et un jour il est au domaine de son maître et son maître lui demande de lui livrer une épée légendaire pour qu'il puisse combattre contre les Mongols, contre les invasions mongoles. Donc en fait, on va suivre le trajet de Ryosuke jusqu'à Kyushu où il va devoir livrer son épée. Et sur le chemin, il se réveille inanimé, l'épée a disparu. Et à cette époque-là, en fait, pour les samouraïs, l'épée c'était considéré comme l'âme, enfin, c'était l'incarnation suprême du samouraï, donc perdre son épée, c'était terrible. Donc si Ryosuke ne retrouve pas son arbre, il n'aura pas le choix que de se faire harakiri, donc le rituel du seppuku, il va devoir se tuer. Donc il n'a pas envie que ça arrive, évidemment.
Voilà,
donc c'est une course poursuite.
Toute une série d'aventures qui lui arrivent, la rencontre avec sa jeune copine Tomoe, hein, d'une autre classe sociale. Enfin bon, vous abordez toutes ces choses-là, hein, les classes sociales, le destin aussi. Quand on est fils de samouraï, on devient samouraï, on n'a pas le choix. Bon, j'imagine que dans notre Europe de cette même époque et même bien au-delà, quand on était fils de boulanger, on devenait boulanger, c'était le destin familial et c'est comme ça. Mais voilà, c'était de façon très rude, hein, au Japon, en tout cas dans vos mots.
Alors, on a tendance à idéaliser cette période samouraï, à en faire des guerriers légendaires, etc. Mais c'était très, très dur, en fait. C'était des métiers très violents. Les jeunes apprentis rentraient dans les écoles pour devenir samouraï autour de 7 ans, à peu près. Ils étaient séparés de leur famille pour aller se former. Et puis, quand on lit les descriptions de la formation, ça donne pas très, très envie. Et puis ensuite, ils étaient. C'est à peu près au XIIe siècle que le Bushido a commencé à émerger. Donc, c'est cette doctrine samouraï très stricte où il faut réfréner ses émotions, on ne doit rien montrer, il faut vraiment rester maître de soi en toutes circonstances, il ne faut pas se mettre en colère, etc. Et donc, c'est par défaut, ça a façonné en fait toute la culture japonaise. Il y a encore. Le Bushido fait encore entièrement partie du Japon d'aujourd'hui, notamment dans les arts martiaux, mais aussi dans le monde du travail. Et c'est quelque chose de très, très dur.
C'est une société qui vous attire ?
Alors, oui.
Je pense à Amélie Nothomb, hein, qui a beaucoup vécu au Japon et puis qui a décrit aussi le choc culturel, hein, pour nous, Européens, d'aller nous mettre, par exemple, dans le monde du travail japonais.
Alors, le Japon, j'adore le Japon. C'est pour moi un endroit très particulier, notamment de par mon histoire familiale. J'aime beaucoup son art, sa cuisine, sa nature, etc., ses célébrations, ses coutumes. Après, je pense que je ne pourrais pas y travailler. Non.
je pense qu'on va laisser l'interprétation de ça. Je pense que comme vous, je ne pourrais pas y travailler, du moins pour ce que j'en sais et j'en connais. Je reviens un petit peu à l'exercice d'écriture et à la rencontre des lectrices et des lecteurs. Vous avez rencontré vos lecteurs après Oublier Gabriel, les jeunes gens là, parce que vous leur expliquez plein de trucs à la fin, c'est ce fameux dossier pédagogique dont on parlait, hein. Je pense que des profs peuvent même utiliser ce livre pour la lecture avec un support de cours finalement. Hein. Vous les rencontrez les jeunes, ils vous font des retours.
Oui, alors j'ai la chance justement d'avoir été beaucoup lue en classe, peut-être de par mes dossiers pédagogiques. Et donc, j'ai pu rencontrer mes lecteurs, alors que ce soit dans des salons, mais aussi ben, justement en salle de classe. Et puis, j'ai plutôt de bons échos, ils sont curieux. Le Japon les fascine, justement, de par les animés, les mangas, tout ce qu'ils voient en fait, sur les jeux vidéo, etc. Donc, ça les fascine. Et donc, par défaut, ben, le contenu de mes romans leur plaît aussi.
Avec, moi j'imagine toujours un retour plus franc hein, de la part de jeunes gens, peut-être moins filtré que de la part d'adultes.
Oui, alors j'ai eu, c'était très rigolo, je suis allée dans une classe à Hermans dernièrement et il y a un jeune élève qui m'a dit qu'il était extrêmement déçu que ça ne finisse pas en histoire d'amour. Il s'était imaginé toute une romance et puis je l'ai pas concrétisé. Donc des fois j'ai des retours qui sont très rigolos.
Bon, ça permet. Hein. Moi je suis allé jusqu'au bout. D'ailleurs c'est une lecture qui m'a pas déplu. Hein. On imagine toujours que le roman jeunesse ça va être ennuyeux pour les adultes rigoureux que nous sommes, mais non.
Alors moi j'adore lire des romans jeunesse. Donc je suis pas la bonne personne à qui demander ça. Je trouve qu'il y a des tas de thèmes qui sont abordés, les auteurs se permettent aussi des fantaisies ou des arcs narratifs un peu différents de la littérature plus classique. Enfin, y a des vraies petites pépites dans le roman jeunesse.
Et puis il y a des vrais immenses auteurs hein, qui sont allés vers l'écriture jeunesse à certains moments de leur vie dans leur œuvre. Bon, ben merci pour ce moment aux avant, Karine Joachim-Paski.
Merci beaucoup.